Bienvenue, vous qui entrez ici, sachez que vous êtes à Black & Blue, Françoise Cordet, qui d'autre met en scène cette émission qui parvient à vous grâce au métier de Jean-Louis Deloncle, l'homme derrière la console aujourd'hui. Georges Pegzinski s'obstine à lire en diagonale l'histoire du piano, des pianistes et pourrait-on dire du pianisme. En ce qui me concerne, je ne lâche pas les vocalistes d'une semelle. Le 13 février 1960, cela vous dit-il quelque chose? Eh bien, ce fut une journée particulière et qu'on n'est pas près d'oublier. La scène se passe en un lieu qui en ce temps-là s'appelait encore Berlin-Ouest. Les organisateurs ont retenu la plus grande salle de la ville, la Deutschlandhalle, laquelle peut accueillir près de 12 000 personnes. Une femme et quatre hommes doivent s'y produire. Parmi les hommes, un garçon dont ceux qui le connaissent, chez les amateurs de l'époque, ils ne sont pas les plus nombreux, se demandent un peu ce qu'il fiche là, parce que c'est un guitariste d'une telle pudeur et d'une telle subtilité que sa présence n'est pas absolument nécessaire au bon déroulement d'une opération où il s'agit surtout de swinguer ferme et d'aller droit au but, dans l'émotion comme dans la liesse. Sa présence prouve seulement que la dame qui a tenu à l'engager possède un flair, un goût, une musicalité infaillible. Il sera bientôt, cet homme-là, l'interlocuteur privilégié de Sonny Rollins. Son nom, James Stanley Hall, dit Jim Hall. La dame, elle, est son propre instrument, un instrument précieux, l'une des voix vraiment irremplaçables de la musique populaire du XXe siècle. Non seulement c'est une chanteuse, mais c'est une chanteuse qui fait déchanter la plupart de ses consoeurs. Je ne dis pas ses rivales parce que son propos n'a jamais été de triompher de quiconque, et encore moins du public. Cette femme-là, depuis l'adolescence, a toujours eu des ambitions pacifiques et modestes. Au public, elle voudrait seulement donner un peu de plaisir, si c'était possible. Elle-même ne connaît guère d'autre façon d'en éprouver dans l'existence. À la ville, on a affaire à une personne tranquille, se satisfaisant d'une vie tranquille et monotone. Cette femme-là n'a jamais rien conquis, ce n'était pas son genre. Pourtant, elle a tout obtenu. On lui a rendu sans compter ce qu'elle avait donné sans compter, et cela date du 13 février 1960, d'un tour de chant singulier et singulièrement d'une interprétation gravée à l'occasion de ce tour de chant. Grâce à cette pièce-là, il s'est produit pour elle un phénomène que l'on avait déjà pu observer deux ans plus tôt avec le Good Book de Louis Armstrong. Tout à coup tombé du ciel entre les mains d'un artiste de jazz, le sésame qui allait lui ouvrir les portes jusque-là infranchissables et que très peu de ses semblables ont franchi depuis que la musique afro-américaine est reproduite par le disque et radiodiffusée. Du jour au lendemain, ou peu s'en faut, une diva du jazz a changé de statut social. Elle est devenue, et dans le monde entier, une vraie vedette populaire. Elle le restera jusqu'à sa quasi-retraite au début des années 90. Sans la pièce qu'on va entendre et qu'il faut être bien jeune pour ne pas connaître par cœur, peut-être le président Reagan ne lui aurait-il pas décerné en 1987, en même temps que la médaille nationale des arts, le titre très japonais de trésor national. Mais ce qui doit retenir l'attention, c'est que cette plage, comme la musique d'ascenseur pour l'échafaud par Miles Davis, pour prendre l'exemple d'un autre succès commercial remporté par une grande figure de la musique afro-américaine. C'est que cette plage a pu toucher le cœur ou les tripes des foules sans leur faire la moindre concession. Oh, elle n'a certes rien de difficile, mais de la part de son interprète, elle ne manifeste pas moins d'exigence et pas moins d'invention que la quasi-totalité de son œuvre. Au début des années 40, Ella Fitzgerald fit des pieds et des mains pour accéder aux premières places des hit-parades. 20 ans après, elle avait trouvé son public et se satisfaisait, on peut la comprendre, d'être considérée dans les milieux du jazz comme la first lady du song et du swing. Et c'est alors qu'une simple phase de 45 tours, fidèle l'une des stars de la variété internationale, la nouvelle Madone des jukebox.
Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. steer, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath dear, and he keeps it out of sight. Oh, the shark bites with his teeth dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's MacHeath, dear? So there's not a trace of red. Ah, Sunday morning, eyes and body.
Deutschlandhalle de Berlin en 1960, Ella Fitzgerald et ses accompagnateurs, outre Jim Hall, le pianiste Paul Smith, le batteur Gus Johnson et le contrebassiste Wilfred Middlebrooks. McDonough, au cas où vous ne l'auriez pas reconnu. Alors Georges, j'imagine qu'à vous aussi, ça vous rappelle quelques souvenirs.
Ah oui, des souvenirs magnifiques. Quelle période, je me souviens encore de Ella Fitzgerald avec une robe magnifique, ça le plaît, elle était en rouge, elle arrivait là, comme une diva, quoi. C'était une diva, superbe, les gens admiratifs, déjà debout, avant même qu'elle commence à chanter. C'est peut-être un chant dont nous allons parler, Alain, finalement, aujourd'hui. Après Bill Evans son trio, après Kenny Werner, la maîtrise sans effort, après Pierre Annunzi, l'art du toucher, après Fred Hirsch, l'art de la résonance, et après Count Basie, Thelonious Monk, Ahmad Jamal, Paul Bley, John Lewis, et l'art du silence, vous vous en souvenez, Alain? Il y a eu le temps des chutes du Niagara, c'est-à-dire Art Tatum, Oscar Peterson. On avait passé Vladimir Horowitz. C'était l'art de la virtuosité. Eh bien, je crois qu'il est temps de prendre son temps, voilà, n'est-ce pas? Et après avoir vécu ceci, qui est à l'image du monde d'aujourd'hui, avouez franchement, voilà, écoutez ça, quel calvaire! Quel calvaire, on est à 184 à la noire. Et alors, on va aller, on va descendre, vous voyez, là, je descends, et on va vivre ceci. Encore, c'est une boîte, vous comprenez, c'est une machine. Il n'y a rien de vivant, là. Alors, il faut arriver à le rendre vivant, c'est-à-dire pas. Et de là, je crois que l'émission est terminée, Alain, n'est-ce pas? Qui aujourd'hui vit un temps comme ça? Le temps lent. Aujourd'hui, on n'arrive pas, tout ce qui nous entoure, on va quitter le studio, on va prendre l'ascenseur, on va se dépêcher, nous avons des obligations, on va revenir, on va encore courir, on va rentrer dans notre maison, vous allez avoir le téléphone qui sonne, vous allez répondre, vous allez courir, vous allez prendre votre manteau, vous allez prendre vos affaires, vous allez relire votre courrier, vous allez vous dépêcher pour repréparer votre émission de demain. Est-ce que vous avez le temps de vivre? Ma question est simple. Est-ce que vous avez le temps de prendre du temps? Alors, j'ai eu l'idée de commencer par un amateur de jazz, qui était un pianiste classique. Vous connaissez mon amour du piano classique. J'ai pensé à un morceau qui m'est venu. Je me suis dit, Alain me propose une émission comme ça, de parler du piano, donc je vais évoquer évidemment la lenteur. Et puis, tout à coup, il y a un titre qui m'est revenu. La plus que lente. Et la plus que lente, mais bien sûr, c'est Debussy. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait Debussy pour écrire la plus que lente? Eh bien d'abord, c'est une valse. Donc quelque chose qui est actif. Il a composé ça en 1910 parce qu'il avait entendu une valse lente qui était un succès de café-concert. Et alors il s'est dit, je vais faire plus lent. Je vais faire la plus que lente. Et à ce moment-là, c'était une réaction à la valse viennoise qui était vive. Il a fait une valse anglaise où on est une valse plus romantique, où on glisse à pas feutrés le long du parquet. Ouais. On prend le partenaire, on tient le partenaire. D'ailleurs, on est à deux déjà. C'est déjà formidable. Et puis, on prend le temps de tourner. Alors, je vous propose ce morceau qui s'appelle donc « La plus que lente » par Debussy. C'est Debussy qui l'a composé, mais c'est Samson François qui la joue.
Cela dit, il faut observer qu'un certain nombre de jazzmen l'ont enregistré, à commencer par Jerry Mulligan avec son sextet.
Ah ben je l'ignorais.
Ah mais si, ah, le sextet avec Zoot Sims, au milieu des années 50, a enregistré même plusieurs versions,
de
la plus que lente.
Ah, absolument. Eh bien écoutez, je vous remercie de cette information. Alors écoutons cette version de Samson François. Thank you. Bien là, j'étais ravi de partager ce moment avec vous, parce qu'il y a quand même un charme un peu désuet de ce que l'on entend, et en même temps, je crois que chez tous les musiciens, il y a quelque chose comme ça qui vibre en vous, quelque chose qui est nostalgique et qui fait que là, tout à coup, le temps passe, on prend le temps, on laisse au temps à la rêverie de s'installer dans votre cœur, enfin, vous voyez, on prend le temps. Alors, je me suis livré encore à un exercice de grammaire, Alain. J'ai regardé dans le dictionnaire et à ma stupéfaction.
C'est à la mode, hein, vous le savez. Ah non, la grammaire revient
oui,
en force dans les lycées et collèges.
Mais oui, c'est vrai. Alors allons-y pour la mode, allons-y. L'an-lente, qu'est-ce que vous lisez dans le dictionnaire dans l'an-lente? Mais c'est terrifiant, Alain. Ça manque de rapidité. Ça met trop de temps. Il est lent dans ce qu'il fait. Il est mou, il est traînard, lent à comprendre, lent à agir, est endormi, engourdi, épais, paresseux. Bon, et par extension, alors on a quand même calme, posé, une sage lenteur, mais il y a, c'est tout, et ça continue. Je prends lenteur après, Alain. Manque de promptitude, de vivacité, lambiné, traîné, lenteur à se décider, épaisseur, lourdeur, pesanteur, enfin bref, caractère de ce qui tarde à arriver, et le clou, désespérante lenteur. Voilà, ça c'est mon cadeau. Oui. Alors vous imaginez, donc, tout est négatif. Oui. Dans la première chose, tout est négatif. Or, et ça, alors là, peut-être une chose, vous m'avez appris que Brookmeyer avait enregistré la plus que lente.
Avec Brookmeyer.
Eh bien là, je vais peut-être vous apprendre une chose. Savez-vous quel était le premier sens de lent dans l'étymologie? Eh bien, Alain, j'ai pris le littré, je l'ai, le vieux littré, vous savez, en plein de volume, là, j'ai regardé l'étymologie. Qu'est-ce que je trouve? Non, mais vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Il y a marqué souple, flexible, proprement. Sens qui est un latinisme rarement usité et seulement en poésie. Et le deuxième sens, c'est par un passage du sens, le mot de flexible devient mou, faible, qui n'agit pas avec promptitude. Donc en fait, le lièvre et la tortue, on connaissait l'histoire, moi l'emporter, et qui serait-ce si vous portiez une maison? Bon, enfin bref, la lenteur, c'est totalement négatif, sauf dans la fable de La Fontaine. Alors, du coup, nous allons retourner au jazz, bien sûr. Bien, j'ai cherché des morceaux vraiment très lents. Des morceaux vraiment très lents, il n'y en a pas beaucoup. En revanche, j'ai trouvé quelque chose, une valse.
Il y en a quand même. Hein.
Oui, il y en a.
Ne serait-ce que le Moonbeams de Miles Davis sur un arrangement de Gilles Evans.
C'est vrai.
Avec
le nonette, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais je voulais quelque chose qui nous emmène dans un voyage, vous voyez, par rapport à Debussy qu'on entend. Et alors là, j'ai trouvé une valse lente. Et écoutez, quelle n'a pas été ma joie de voir que celui qui l'a composé, ne riez pas Alain, celui qui l'a composé, c'est un batteur. C'est Jeff Hamilton, avec son trio. Et alors là, je vous le donne en mille, je suis sûr que vous ne connaissez ni le pianiste, ni le contrebassiste. Et ce sont des gens extrêmement intéressants. Le pianiste s'appelle Larry Fuller. C'est un pianiste ambidextre, qui a écouté Peterson, Monty Alexander, Jan Harris. Il vit à Seattle, Washington, il a joué avec Benny Golson, imaginez-vous, avec Jimmy Witherspoon, avec Eddie Harris, avec Anita O'Day. Le contrebassiste, né en 57, eh bien, il a étudié avec Rufus Redd, il a fait partie de l'orchestre de Woody Herman, il a été 2 ans dans le big band de Basie, il a allé jouer avec George Shearing, Monty Alexander, Al Cohn, Mel Lewis, Scott Hamilton, enfin bref, des tas de gens, Frank West, et je vous avoue franchement que je ne connaissais pas leur nom avant d'avoir découvert
non
ce
non
disque.
Plus parce que vous ne l'avez pas dit.
Ah, je ne l'ai même pas dit.
Non.
Alors, Lynn Seaton.
D'accord.
Seaton, S-E-A-T-O-N.
Oui, c'est un nom que j'ai vu peut-être sur des listes de Shearing, en effet. En tout cas, c'est un nom qui ne m'est pas...
Alors, écoutez, cette valse, nous allons entendre ce trio en 1996, live. Donc, une composition de Jeff Hamilton, tout un programme. Écoutez, ça s'appelle « Time Passes On ». Thank you.
Bon, le patron de ce trio, c'était donc Jeff Hamilton.
Absolument.
Un batteur extraordinaire qui a, toute proportion gardée, un peu pris la place qu'occupait Shelly Manne sur la côte ouest. Du reste, son style n'est pas sans évoquer celui de son aîné. Et puis, il y avait avec lui donc deux musiciens dont on n'a pas trop l'habitude de voir les noms.
Voilà, c'était...
Il faut nous rappeler.
Absolument, c'était Larry Fuller au piano et Lynn Seaton à la contrebasse. Et on est en 1996, live dans un club. Ouais. Voilà.
Cette relative rareté, un morceau sur tempo lent, voire très lent, avec solo de batterie. C'est ça le plus rare.
Alors voilà, c'est un cadeau pour vous, Alain. Vous avez vu comment ce batteur qui a composé cette valse de 24 mesures, qui est d'ailleurs dédié, c'est assez émouvant, est dédié à son premier professeur de batterie qui s'appelait John McMahon, et lui-même, quand il joue les ballets, il joue la mélodie en même temps et ça respire énormément. Et le pianiste a cette espèce de d'écho de la batterie. La batterie est en écho avec le piano, le piano est en écho avec la batterie, donc il y a une magnifique osmose dans le trio. Et surtout, c'est le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est que ce sont des musiciens qui prennent le temps, voyez. On prend le temps de jouer, de placer les notes les unes par rapport aux autres, de prendre le temps de voir le temps défiler. Or, aujourd'hui, je crois qu'on n'aime pas ça, vous voyez. Tout nous éloigne de la lenteur. Et c'est quand même peut-être un problème immense, finalement. Comment se fait-il que la lenteur est toujours considérée comme un morceau de passage entre deux morceaux rapides, une sorte de détente, alors que pas du tout. Jouer un tempo lent est d'une extrême difficulté pour celui qui réalise ça. Jouer Mozart, par exemple, c'est effrayant. On avait une discussion à ce sujet avec Georges Pludermacher. C'est genre, vraiment, le tempo lent, il faut un investissement terrible intérieurement pour pouvoir jouer la note. Il y a la préparation du geste. Il y a jouer le geste, il y a prendre la touche, faire sonner la note, il y a la résonance, et ensuite il faut lever la main dans le mouvement musical pour préparer ensuite un nouveau mouvement, vivre le silence pendant la préparation du mouvement, et à nouveau amorcer un deuxième geste. C'est extraordinaire.
Cela dit, ça n'est évidemment pas du tout possible si on ne pense pas à la musique vite, ou du moins plus vite. Hein.
Oui.
C'est Peter Erskine qui explique que lorsqu'on le veut bien jouer sur tempo lent, il importe de chanter dans sa tête tous les triolets l'un après l'autre. Hein. C'est-à-dire ta 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 ta. Boum. Bon, voilà. Alors, évidemment, autrement, c'est vraiment pour avoir une mise en place d'une rigueur absolue. Oui. C'est impossible.
C'est impossible. Alors, c'est drôle parce que, précisément, j'ai choisi le disque suivant, c'est le Peter Erskine Trio. C'est incroyable.
C'est vrai qu'il le fait particulièrement bien.
Alors, voilà,
mais il explique, lui, que ce n'est pas difficile si on fait ça. Et dans sa démonstration sur vidéo, je me souviens qu'il dit, mais jouer comme ça, très lentement, pour un batteur, c'est a piece of cake.
Oui, mais...
C'est-à-dire, autrement dit, c'est de la tarte. C'est comme ça qu'on devrait traduire en français.
Oui. Il est très intéressant de voir que la démarche intérieure des musiciens dans ce travail de lenteur est, contrairement à ce qu'on peut imaginer, un travail d'une activité absolument incroyable à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on bouillonne intérieurement. Il y a celui qui entend ce que l'on joue, il y a celui qui joue ce qu'il joue, n'est-ce pas? Et c'est là peut-être une des choses merveilleuses du tempo lent, c'est qu'il faut progressivement disparaître soi-même devant la volonté que l'on a de jouer. On joue et on laisse passer quelque chose qui est quelque chose qui nous habite et qu'on laisse passer un peu au travers de soi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait que lire quelque chose qui nous habite, vous voyez. Et à ce point de vue-là, j'ai trouvé un livre incroyable qui n'existe pas en français, qui n'a pas été traduit, qui s'appelle « Free Play » par Stephen Narmanovich. Et imaginez-vous que ce livre, derrière, il y a deux textes. Et quelle n'a pas été ma stupéfaction de voir qu'il y a la signature de Yehudi Menuhin et en dessous, je vous le donne en mille, Alain, Keith Jarrett. Je ne connais pas de livre. Je ne connais pas de livre où les deux, le violoniste superbe que l'on connaît, et Keith Jarrett, qui soit préface le même bouquin, vous comprenez. Et là, il évoque beaucoup de choses, justement, des choses très simples. Free play, c'est-à-dire, en fait, se libérer. En fait, ce que Kenny Werner évoque un peu dans son livre, La maîtrise sans effort, c'est d'arriver à être cette porte battante. Et être une porte battante dans le jeu, ça suppose mettre toute sa volonté de bien faire, la mettre entre parenthèses, pour laisser passer quelque chose, faire les membres, laisser les membres jouer, en même temps conduire, et à un moment, l'intelligence disparaît au profit de l'intuition qui tout à coup vous emmène et emmène la musique avec les partenaires. Là, ça devient tout à fait grandiose. Et ça demande énormément d'humilité et d'authenticité. Alors, on ne peut pas tricher à ce niveau-là. Ou alors, on fait des clins d'œil au public, tout ça. On ne peut pas tricher. On est vraiment en face de soi. On est comme confronté, on est devant une glace, en fait. On est confronté à soi-même d'une façon, j'allais dire, terrifiante. Parce que ce tempo-là dévoile toute votre personnalité. Dans la manière dont vous jouez le tempo lent, vous mettez à nu, en quelque sorte. Vous n'avez plus rien entre l'instrument, le son et ce que vous êtes intérieurement.
Il est clair que c'est encore plus difficile d'ailleurs pour le batteur, puisque nous évoquions ce type de problème, oui, que pour les autres, simplement parce que l'instrument ne suppose pas, dans l'état qu'on lui connaît habituellement, de prolonger les notes. Hein. Il n'y a que deux façons de prolonger les notes. Oui. C'est le glisser du balai lorsqu'on se sert de balai, ou l'usage d'une cymbale cloutée. Mais autrement, c'est impossible. Encore plus que sur le piano, parce qu'après tout, sur le piano, on dispose des pédales, on dispose, oui, d'un certain nombre de choses. Bon, évidemment, sur un saxophone, il n'y a pas de problème à, oui, faire durer une note. Bien, mais entendu, sur une batterie, c'est difficile. C'est encore plus difficile que sur un piano.
C'est vrai, parce que il y a la batterie, évidemment, il y a le gouffre qu'il y a entre, il y a le corps que l'on a et la baguette que l'on tient dans les mains, et tout l'espace qui existe, et les balais permettent justement le contact permanent avec la peau, n'est-ce pas ? Mais, alors, je vous propose, nous sommes le 21-22 octobre 1999, avec Alan Pasqua, qui est le compositeur du morceau, David Carpenter, donc le pianiste, David Carpenter, le contrebassiste, et Peter Skin Trio, et nous sommes donc Rocco Beller en Californie, en 99, pour le morceau qui s'appelle Taïwa.
octobre 1999, Tiowa. Il y avait là Peter Erskine, batterie et direction d'orchestre, Alan Pasqua qui avait composé ce thème et qui est pianiste, et à leur côté, David Carpenter à la contrebasse. Je me demande si le problème de la lenteur, on ne pourrait pas l'exprimer finalement, l'articuler en termes extraordinairement simples. Alors voilà moi ce que je vous propose. Il semblerait que, en dessous d'un certain tempo, que l'on pourrait sans doute expérimentalement arriver à fixer. On pourrait au du moins fixer une limite supérieure et une limite inférieure, hein, parce qu'évidemment, ça, elle doit être différente selon les individus, cette limite, grâce à votre métronome. Un tempo, donc votre métronome, que faisait-il tout à l'heure? Toute notre clientèle a pu s'en rendre compte. Il fait tic-tac, comme un brave. Eh bien, il semblerait qu'il arrive un moment où le tempo devient tel que le tic n'entraîne plus le tac, automatiquement. C'est-à-dire que vous avez un moment où la pulsation, car la pulsation, elle est bien sûr conservée, la pulsation ne met plus le corps en mouvement. Elle est insuffisante à mettre le corps, corps en mouvement.
Absolument.
Et à ce moment-là, vous avez affaire à une transmutation extrêmement curieuse, c'est-à-dire que ce qui se lisait en termes de temps va se lire en termes d'espace. Et vous avez le corps tel un ballot qui est là à contempler l'espace.
Bravo,
l'espace, évidemment, est plus facile à contempler qu'à conquérir. Et le problème du musicien, c'est qu'il ne peut pas se contenter de le contempler, lui.
Bravo Alain, vraiment, je ne peux qu'aller dans votre sens en disant qu'il y a évidemment le point de vue d'abord de l'auditeur qui, lui, peut s'évader, qui peut rêver, qui se prête à la méditation et qui, à un moment, comme vous le dites, si c'est trop lent, il n'a plus quoi à se raccrocher. Et effectivement, son esprit peut rêver. Et là, il est, je l'ai presque dire, dans un autre monde. Mais il y a le point de vue de celui qui le joue, la musique, qui est totalement différent, qui, lui, doit obséder par le fait de faire avancer la phrase, de continuer. C'est peut-être la chose la plus difficile dans la musique, c'est de continuer. C'est de continuer ce qu'on est en train de créer devant les gens, continuer, ne pas lâcher le morceau une seconde, et donc ne pas lâcher ni le son, ni l'attaque, ni le tempo. Donc, je veux dire, plus le tempo est lent, plus il faut, j'allais presque dire, mais ramer à grandes enjambées, vous voyez, vraiment, pour utiliser des... Alors donc, il y a là donc une curieuse, une contradiction entre l'auditeur et celui qui joue la musique. C'est pas une contradiction, c'est une contradiction dans les faits, quoi. Dans le corps et dans l'esprit. C'est incroyable.
Des amateurs de jazz à l'ancienne ou de jazz ou de swing à l'ancienne auraient pu et ont d'ailleurs à leur manière posé la question est-ce que le jazz reste du jazz lorsqu'on ne peut plus taper de la patte?
Mais il y a peut-être par ailleurs, il y a une autre pulsation qui arrive. C'est celle que vous prêtez à quelque chose que vous entendez.
Absolument, mais là encore, on assiste à un déplacement. Dans la même partie du corps que ça se passe.
Voilà, alors là, c'est encore autre chose. Et là, on accède à quelque chose qui est de l'ordre de la métaphysique, où on rentre dans un autre monde complètement, qui est le but, finalement. Le musicien est un métaphysicien qui s'ignore. On disait que c'est un mathématicien qui s'ignore, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métaphysicien qui s'ignore. Donc là, cette métaphysique va nous emmener dans un autre aspect.
Je voulais juste vous dire une petite chose qui me vient à l'esprit. Oui. C'est que finalement, du point de vue de ce problème en particulier, hein, de l'extrême lenteur même, on pourrait dire que les musiciens de jazz sont moins bien servis que les musiciens classiques. Pourquoi ? Parce que le musicien classique peut faire vivre sa temporalité. Allonger les durées, il peut les abréger à sa guise. C'est ce que faisait Samson François tout à l'heure. Alors que le musicien de jazz, lui, est censé respecter cette mise en place rythmique de façon rigoureuse. Ce qui est assez paradoxal.
M'accorderez que dans Crescent, par exemple, dans le disque Crescent, où Coltrane joue où on joue Eyes One, où il joue Eyes One, il y a une introduction qui est l'introduction de Samson François qui joue Debussy. C'est-à-dire que où il y a une extraordinaire, il y a un rubato invraisemblable, et il y a tout à coup cet afro-cubain qui arrive très très lentement. J'aurais pu le choisir d'ailleurs. Mais McCoy, vous voyez, sublime, ou après quelque chose d'extraordinairement large, extraordinairement ouvert, comme on dirait, mais ce n'est pas les bons mots, c'est quelque chose d'autre qui apparaît. où le son est transcendé complètement, où le son n'est plus le son, où le son est transformé dans la rêverie de la personne, dans le corps, où il disparaît en tant que son lui-même pour aller ailleurs vers une obsession. Et là, je vous propose une obsession qui devient absolument incroyable. C'est les deux petits morceaux, j'espère que le pianiste me pardonnera de passer que deux très brefs instants de deux morceaux différents.
Mais le problème n'est pas que l'espace soit ouvert, ça c'est plutôt une chance, c'est qu'il devienne infini. Et là, l'angoisse est au rendez-vous.
Alors maintenant, vous venez d'entendre Naïma.
Naïma, je ne suis pas sûr de le connaître, celui-là.
Alors, je vous dis pas qui c'est, Alain. C'est une obsession du mi bémol. Et là, vous allez entendre... Non, et puis là, vous allez entendre l'obsession du sol. Second Side, Marc Copland. On est en 24-25 octobre 2001. Alain, c'est le vertige, là, c'est le gouffre. C'est la répétition, c'est l'obsession, c'est en même temps la lenteur et préfigure. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas jouer lent, mais ça préfigure le vide. C'est l'éventuelle apparition du gouffre et on veut toujours combler. Donc, alors à ce moment-là.
Il y avait un parapet, cela dit. Voilà, c'est cette note qui sert de parapet.
Voilà, le parapet. La note permet de ne pas sombrer. Et elle est là, obsessionnée, mais c'est toujours la même. Alors, dans le cas de Naïma, c'était le mi bémol. Et là, dans le cas de Second Sight, c'est l'obsession de la note sol.
C'est d'ailleurs intéressant parce qu'on essaie de se prémunir d'un vertige par un autre
vertige. Par un autre vertige, voilà. Mais on ne supporte pas, Alain. On ne supporte pas l'attente. Donc on est obligé de combler quelque chose. Et quand on joue, ça c'est aussi terrible. C'est qu'on joue à un moment quand il se passe plus rien. Et pourtant, il se passe énormément de choses. Mais la musique, le son s'arrête, mais la musique elle continue. Et là, ça plane, vous voyez, ça plane complètement. Et là, il faut tenir, vous voyez, il faut tenir la personne qui est en face de vous en haleine. Il faut la suspendre le temps, vous voyez.
Vous dites quelque chose de passionnant parce que je me demande si la grande... Pardon de revenir à la batterie, mais si la grande révolution de Kenny Clarke, ça n'a pas été plutôt que ces histoires de pieds, de grandes cymbales, etc. Parce qu'on sait très bien que tout ça, finalement, Sidney Catlett l'a fait avant lui. Si la grande révolution, c'est pas précisément ça, c'est-à-dire le courage de laisser l'espace vide.
Nous sommes maintenant le 10 et 11 juin 1999. Écoutez ce duo, c'est étonnant. Ça s'appelle Alone, Together, seul et tous les deux.
Ben ça pourrait servir de devise au jazz lui-même, hein, Alone, Together.
Absolument.
Encore une fine miniature, délicate et pourtant puissante. Ça se passait en 1999, comme Taiowa, il y a quelques morceaux en arrière. Alone Together était interprété par Bill Carruthers au piano et Bill Stewart à la batterie.
J'aurais également pu choisir Alain John Taylor. Et vous savez, toutes ces mouvances, justement, et en écoutant cet enregistrement, je me disais, mais Copland, John Taylor, Carruthers, il y en a encore quelques-uns. Werner, voilà, bien sûr.
Brad Meldon.
Il y a toujours cette mouvance derrière, entre Debussy, Ravel, Scriabine, il y a toujours ça derrière. Et ces tempos lents.
Merci, Papa Bill Evans.
Merci, Papa Bill Evans, largement. Il y a donc derrière tout ça, peut-être une volonté de retour à quelque chose d'autre, et qui ouvrirait la musique de jazz vers un autre voyage, peut-être justement par le biais de ces pianistes qui ouvrent des voies. Ils sont parfois un peu difficiles à différencier, vous me l'accorderez. Nous évoquions ça hors antenne tout à l'heure. Mmh. Souvenez-vous de l'émission, on avait fait plusieurs batteurs et on avait passé des batteurs qui avaient tous le même son et qui étaient merveilleux musiciens, mais on ne pouvait pas les différencier comme Philly Joe Jones, Art Blakey, par exemple. Voyez. Alors, mais c'est autre chose. Finalement, je me demande si le musicien, au fond, avec la lenteur, n'est pas un voyageur solitaire qui veut partager sa solitude avec le public auquel il s'adresse. Et de ce point de vue-là, j'ai un cadeau pour cette fin d'émission, Alain. Il y a un morceau qui s'appelle « Le voyageur solitaire ». Et c'est ce pianiste que j'adore tellement, c'est Émile Guilels qui joue ce morceau qui est de Grieg. Écoutez cette merveille.
Grieg par Guilels, Black and Blue s'achève. On vous y proposait ce soir l'histoire du piano de jazz lu en diagonale par Georges Paczynski. 8e chapitre, Françoise Cordet a mis en forme ce que Jean-Louis Deloncle a mis en onde. Je m'associe à ce trio pour vous souhaiter de bien commencer la semaine dans laquelle nous allons verser de façon imminente. À dimanche prochain.